Le journal, Hugo Lanoë. Bonjour Hugo.
Bonjour Laetitia, bonjour à toutes et à tous. Il y a 75 ans, jour pour jour, des sapeurs-pompiers de Paris décrochaient la bannière nazie en haut de la tour Eiffel et le remplaçaient par le drapeau tricolore. La libération de la capitale, Laetitia, célébrée aujourd'hui avec l'inauguration d'un nouveau musée.
Oh oui, le musée de la libération de Paris. Dans 20 minutes, on reçoit sa directrice Sylvie Zedman, première invitée de la matinale. Rendez-vous à 7h50.
L'écologie et l'environnement au menu des discussions à l'ouverture hier du sommet du G7 à Biarritz. Emmanuel Macron promet de réduire la pollution des océans. 147 grandes marques de textiles signent une charte. Dans l'actualité également, 12e week-end de mobilisation à Hong Kong, l'université d'été du Parti Socialiste à La Rochelle, une première depuis 4 ans. Et puis, entre doutes et interrogations, le 15 de France doit se réveiller un peu bougon ce matin au lendemain de leur défaite face à l'Écosse en vue du Mondial.
France Inter. Paris célèbre aujourd'hui donc les 75 ans de sa libération avec une particularité cette année, l'ouverture d'un nouveau musée d'histoire.
Auparavant installé sur la dalle de la gare Montparnasse, le musée de la libération de Paris a rejoint un haut lieu de la résistance dans la capitale, la place d'Enfer Rochereau dans le 14e arrondissement. D'ailleurs, l'exposition est implantée au-dessus du poste de commandement des forces françaises intérieures dirigé en août 1944 par le colonel Roll Tanguy. Pour son fils Jean, l'ouverture de ce nouveau lieu doit permettre de faire vivre la mémoire de ceux qui ont participé à la libération.
Je pense à mes enfants et à mes petits-enfants qui vont être là pour ce 75e anniversaire. Je vais être accompagné d'une de mes petites filles, Raphaël, qui a 14 ans et qui a demandé à venir, à regarder, à savoir, à comprendre.
C'est important que cette mémoire-là se poursuive, ne soit pas perdue.
Et c'est fondamental. Ce musée et ce PC ouvert n'a d'autre fonction que de transmettre aux jeunes générations. C'est ça son rôle. Le reste, c'est des murs historiques, oui, bon, mais voilà. Mais il faut transmettre, il faut faire comprendre, il faut faire connaître.
Jean Roll Tanguy, un des fils du colonel Roll Tanguy qui a conduit l'insurrection de Paris pour célébrer les 75 ans de la libération de la capitale. Une cérémonie est prévue à partir de midi au pied de la tour Eiffel en hommage, je vous le disais, aux 6 sapeurs-pompiers de Paris qui avaient monté les escaliers de la Dame de Fer sous le feu ennemi pour remplacer l'étendard nazi par le drapeau tricolore. Paris, où la circulation est différenciée aujourd'hui en raison d'un pic de pollution, seuls les véhicules munis de vignettes critères 0, 1 et 2 sont autorisés à circuler. La vitesse limite sera abaissée à 110 km/h sur les portions d'autoroute habituellement limitées à 130 et à 90 sur les portions normalement limitées à 110. La question environnementale et climatique au cœur des discussions hier à l'ouverture du G7 à Biarritz. Le coup d'envoi de ce sommet a été donné au phare de Biarritz face à l'Atlantique. Pour un dîner informel, les dirigeants des 7 pays les plus riches au monde ont abordé le cas de l'Amazonie actuellement ravagée par les flammes. L'écologie au cœur également de la colluche de l'allocution d'Emmanuel Macron. Hier midi, le président de la République a notamment promis des efforts pour lutter contre la pollution textile dans les océans. D'ailleurs, 147 grandes marques de textiles s'engagent à prendre des mesures pour limiter leur impact sur le climat. Un fashion pact, une charte, présentée au cours de ce sommet, Bastien Munch.
Zéro émission de CO2 d'ici 2050, 100% d'énergie renouvelable en 2030. Sur ce fashion pact figurent des objectifs, mais sans aucune contrainte financière ou juridique. Pas un problème pour Yves Dubief, président de l'Union des industries textiles. Pour lui, c'est l'image de marque qui fera le travail.
Si une entreprise signe ce Fashion Pact et ne fait pas d'efforts suffisants en matière de réduction du CO2, de réduction des pesticides et de préservation des océans et que ça se sait, sa réputation sera tellement touchée qu'elle ne va jamais prendre ce risque.
Selon lui, la solution, c'est de relocaliser les industries textiles en France et en Europe, où les normes sont beaucoup plus strictes en matière de protection du climat. Mais les consommateurs aussi ont leur part de responsabilité dans la pollution des océans par les déchets textiles.
Parfois, on lave trop fréquemment les vêtements, et avec des eaux trop chaudes et avec des lessives trop dures. Quand c'est mis 30 degrés ou 60 degrés, ça veut pas dire qu'il faut être à 30 ou à 60 degrés, ça veut dire qu'il faut pas dépasser 30 ou 60 degrés. Donc parfois, on peut laver à une température plus basse que celle indiquée sur les étiquettes de vêtements et utiliser des lessives plus faibles. Je pense que c'est un effort aussi d'éducation du consommateur.
Au total, on estime que 500 000 tonnes de microfibres de plastique issues du lavage des vêtements synthétiques sont présentes dans les océans.
Explication signée Bastien Munch. Et du côté des anti-G7, une manifestation pas comme les autres est attendue ce matin à Bayonne avec le défilé des portraits. Les organisateurs vont rassembler de nombreuses photos officielles d'Emmanuel Macron décrochées ces dernières semaines dans les mairies. Hier, les rassemblements se sont globalement déroulés dans le calme. Entre 9 et 15 000 personnes se sont retrouvées côté espagnol. Climat un peu plus tendu à Bayonne hier avec une mobilisation non autorisée et ces quelques heures entre forces de l'ordre et 300 manifestants.
Une manifestation prévue également aujourd'hui, cette fois-ci à Hong Kong, où la contestation ne faiblit pas.
Plus de deux mois après le début de leur mouvement, les militants pro-démocratie se retrouvent dans la rue pour le 12e week-end consécutif. Une grande marche doit s'élancer sur la rive continentale du territoire semi-autonome, un rassemblement non autorisé. Une semaine après une mobilisation monstre, sans haine ni violence, les face-à-face entre policiers et contestataires ont repris hier à certains endroits. Correspondance à Shanghai, signée Angélique Forger.
Cela faisait 10 jours que les forces de l'ordre n'avaient tiré aucun gaz lacrymogène sur les manifestants, mais cette trêve tacite a pris fin ce week-end. Aux barricades érigées en plein cœur de Hong Kong, la police a répondu en chargeant les protestataires et en faisant usage de gaz poivre et de balles en caoutchouc. Nouveau point de crispation pour les manifestants, des lampadaires intelligents à reconnaissance faciale auraient été déployés dans la ville et permettraient, selon eux, de collecter les données de leur carte d'identité. Certains ont été vandalisés, des actes condamnés par le gouvernement hongkongais. Sur sa page Facebook, la chef de l'exécutif Carrie Lam a publié un message. « Nous sommes tous fatigués, ne pourrions-nous pas nous asseoir et discuter ?» Les manifestants ont toujours les 5 mêmes revendications depuis le début de la contestation, dont le retrait définitif du projet de loi qui aurait permis les extraditions vers la Chine continentale, l'ouverture d'une enquête indépendante sur les violences policières et l'obtention du suffrage universel. Shanghai, Angélique Forget, France Inter.
Retour en France avec la rentrée politique et l'université d'été du Parti Socialiste qui se déroule à La Rochelle, une première depuis 4 ans.
Et en dépit des querelles intestines entre l'ancienne et la nouvelle génération, on constate un regain de fierté pour les militants socialistes. 1200 inscrits pour ce campus qui se termine aujourd'hui. Objectif atteint, estiment les cadres du parti, même si la question de fond sur une éventuelle grande fédération avec les écologistes n'est pas encore tranchée, Laurence Perron.
Ça a commencé un peu rugueux, ce campus de La Rochelle. Raphaël Glucksmann s'en est excusé, maladresse que d'avoir laissé entendre sur France Inter que les partis étaient morts. Le grand cadavre à la renverse, les militants en ont soupé, mais le patron du PS avertit.
Alors, j'entends parfois dans nos rangs évoquer un risque d'effacement. Mais l'effacement, justement, il a eu lieu et c'est pourquoi maintenant nous devons porter le projet de notre renaissance.
Il faut changer de logiciel et mettre l'écologie, tout comme le social, au cœur du projet. Et oui, cela impose de tendre la main aux écologistes.
Ce n'est pas un camp fragmenté façon puzzle que les Français confieront leur destin.
Mais cela veut dire aussi que les incantations « ni droite ni gauche » de Yannick Jadot ne sont pas acceptables.
Le « ni droite ni gauche » est une mascarade.
Olivier Faure s'est bien gardé d'affronter bille en tête les anciens ministres de François Hollande qui fourbissent la possibilité d'une candidature de l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, tout en consentant.
Il y aura des débats, il y aura des frictions. C'est notre code génétique commun.
Des frictions, des querelles, les socialistes savent qu'ils vont en manger encore. Mais hier soir, en tenant Bella Ciao devant leur premier secrétaire, ça sentait tout de même un peu plus la vie que le cadavre à La Rochelle.
Le reportage de Laurence Perron.
Le 15 de France se réveille ce matin avec des interrogations.
L'espoir a laissé place au doute après la défaite hier en Écosse 17-14 à l'occasion du deuxième match de préparation à la Coupe du Monde mondiale qui approche à grands pas. France-Argentine, c'est le 21 septembre, mais une constante chez les Bleus, pas question de s'affoler. Ils nous le certifient, ils sont sereins, Fanny Léchevestrier.
Si on caricature un peu, c'est le retour des fameuses défaites encourageantes, celles qui laissent perplexes les observateurs mais n'inquiètent pas les joueurs. Un état d'esprit que nous décrypte l'arrière Maxime Médard.
Ben, on a été bon en défense, voilà, on a eu de belles séquences. Ce que j'aime bien, c'est surtout l'état d'esprit où voilà, dès qu'il y a un mec qui perd le ballon, il y a toujours quelqu'un qui est derrière et c'est bon pour la suite.
Le pilier de Jefferson Poirot va même plus loin. Pour lui, même dans la défaite, l'équipe a emmagasiné de la confiance.
Et dans une phase où on doit faire des erreurs aussi pour apprendre et je pense qu'on serait bête de ne pas tenter des choses. Nous, on veut être prêts pour l'Argentine. Honnêtement, sur ces deux matchs, je sors avec de la confiance. Comme je l'ai dit, je préfère être français qu'écossais.
De toute façon, ne cherchez pas. Vous ne trouverez pas un joueur français inquiet. On en a même vu un avec un large sourire. Normal, Sofiane Guitoun, appelé de dernière minute, venait de jouer son premier match avec les Bleus depuis 4 ans.
Je suis content, ça faisait bien longtemps que je n'étais pas revenu avec ce maillot. Donc, coup de fierté. Franchement, c'était des années de galère. Hein. C'est un peu ma vie, moi, ça. Je ne suis jamais le premier choix. C'est toujours comme ça. Donc voilà, je m'accroche. Et
comme le martèle l'équipe, l'important ce n'est pas d'être premier aujourd'hui, mais de répondre présent face à l'Argentine le 21 septembre. À Édimbourg, Fanny Le Chevestrier, France Inter.
Et pour s'améliorer avant le début de la Coupe du Monde, Laetitia, les Bleus auront encore un match. Ce sera vendredi prochain au Stade de France face à l'Italie.
Merci Hugo Lanoë, Jean-Michel Golinski. J'hésite, alors on a le droit quand même à un ciel un peu perturbé à l'ouest.
C'est vrai que ce sera plus mitigé entre le Finistère et le sud de la Garonne, donc sur la façade atlantique, ceci jusqu'en fin de matinée. Pour retrouver le soleil, donc, ce sera cet après-midi sur ces régions proches de l'océan. Avec ce matin, quand même, des entrées maritimes relativement denses, qui peuvent même éventuellement donner quelques gouttes. Les températures vont un peu baisser sur la façade atlantique par rapport à hier, avec 26 degrés prévus cet après-midi sur le Pays Basque, 25 sur la Charente-Maritime, 24 degrés sur la pointe bretonne, mais plus à l'est, alimenté par l'air chaud en provenance d'Espagne et d'Afrique. Là, les températures vont afficher jusqu'à 36 degrés sur le Nivernais, le Berry et le Limousin, et 32 à 35 degrés en général sur les autres régions, et par exemple 33 dans la capitale et sur le Lyonnais, 32 dans le Nord. À noter la persistance cet après-midi du risque d'orage pour la Corse et le sud des Alpes.